Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, des juges pour enfants qui poussent un cri. Leur décision en Seine-Saint-Denis met un temps fou à être appliquée. Pendant ce temps-là, les enfants sont en danger. À 8h20, vous en parlerez avec votre invité Nicolas.
Il s'agit de la garde des Sceaux, ministre de la Justice Nicole Belloubet, dans le grand entretien de la matinale 01 45 24 7000.
Emmanuel Macron et son barda sur les traces de la Grande Guerre, au contact des Français aussi, au début d'une semaine dense dans l'Est et dans le Nord, alors que les sondages du président sont tout au fond des tranchées. À la une également, le drapeau français flotte toujours au-dessus de la Nouvelle-Calédonie, au moins jusqu'au prochain référendum. Reportage à Nouméa. Barack Obama en campagne contre Trump, meeting à Chicago hier à la veille des élections de mi-mandat, nous y serons. Les médecins bientôt obligés de se former tout au long de leur carrière, c'est dans les tuyaux au ministère de la Santé. Et puis le premier coup de théâtre de la route du Rhum, Sébastien Josse et son voilier volant ont subi une avarie ce matin. François Gabart en tête de la course.
France Inter.
C'est une situation porteuse de drame. Nous sommes en Seine-Saint-Denis, à Bobigny, où des juges pour enfants prennent la parole ce matin sur France Inter. Et dans le monde, cette parole est rare et c'est un appel au secours. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour.
Les enfants sont en danger, expliquent les juges de Bobigny, parce que leurs décisions ne sont pas toujours appliquées.
Oui, les 15 juges des enfants de Bobigny, tous passionnés, lancent ce matin un SOS collectif, car les mesures qu'ils prennent pour les mineurs délinquants qu'ils condamnent ou pour les enfants en danger qu'ils protègent, ces mesures ont beau être cruciales pour les enfants, elles ne sont plus toutes appliquées. S'alarme Claire Pochère, l'une des juges des enfants de Bobigny, désemparée.
C'est véritablement un appel au secours parce que pour nous, la situation est très grave. Nous prononçons des mesures qui sont devenues des mesures fictives. Nous nous sentons une responsabilité de le dire et de dire qu'aujourd'hui, on ne s'occupe pas suffisamment de protéger les enfants en Seine-Saint-Denis.
En Seine-Saint-Denis, les placements se font encore en urgence dans les cas de maltraitance avec violence. Mais pour toutes les autres situations de carence affective ou de négligence dans les soins, par exemple, les délais de prise en charge par un éducateur sont devenus dramatiquement long, se désole Magali Lavibadi, une autre juge des enfants de Bobigny.
Lorsqu'on prononce une mesure donc d'accompagnement, en principe, elle devrait commencer tout de suite. Et dans la réalité, en Seine-Saint-Denis, ça commence un an et demi après. Ce qui veut dire qu'un enfant reste un an et demi de plus en situation de danger et de difficulté, alors qu'un juge des enfants l'a rencontré et a constaté qu'il était dans cette situation.
900 enfants sont dans ce cas en Seine-Saint-Denis. Alors les juges signataires de cette tribune n'accusent pas pour autant le département le plus pauvre de France qui fait ce qu'il peut. Ils espèrent surtout que l'État va augmenter ses dotations. Ces 15 magistrats rappellent que les enfants mal protégés deviendront des adultes vulnérables et peut-être violents.
Sophie Parmentier, cette tribune effrayante des juges pour enfants de Bobigny est à lire sur franceinter.fr.
Il est 8h03, la longue tournée d'Emmanuel Macron dans l'Est et dans le Nord. Le président commémore le centenaire de la fin de la Grande Guerre.
Une semaine sur les traces des poilus d'hier et à la rencontre des Français d'aujourd'hui sans repasser par Paris. Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
C'est vous qui suivez ce périple, cette itinérance mémorielle, comme dit l'Élysée, avec chaque jour son champ de bataille.
L'idée est d'aller sur les traces qu'on fit le chef de l'État, de suivre ce chemin du front comme le faisait Clémenceau, et à ceux qui l'accusent de ne pas vouloir une commémoration trop militaire et de minimiser l'importance de la victoire, pour selon eux ne pas déplaire à Angela Merkel, eh bien le chef de l'État balaye ce reproche et assume de vouloir célébrer la victoire de la nation combattante et la paix. En même temps, il va donc sillonner 11 départements en une semaine et s'arrêter dans des lieux emblématiques à la résonance historique. Verdun, bien sûr, la crête des Éparges, le chemin des Dames, la nécropole de Notre-Dame de Lorette, mais aussi la ville de Morhange. Aujourd'hui, premier acte de cette tournée, théâtre de la première grande bataille et grande défaite française sur le sol national.
Morhange, bataille peu connue de l'histoire de la première guerre. Aucun président ne s'était rendu là-bas. Nous sommes en Moselle, au début de la guerre, en août 14, et Morhange est un piège, explique l'historien Jean-Yves Le Naour, un piège dans lequel le général Foch, à l'époque, a précipité les troupes.
Foch porte une grande responsabilité dans cette bataille. Il voudrait être le premier général victorieux. Ce qui fait qu'on va lancer les hommes sur des positions allemandes qui sont préparées depuis 40 ans, puisqu'on est en Moselle. On est sur le champ de bataille que l'armée allemande a décidé, c'est-à-dire qu'elle n'a cessé de reculer pour combattre à l'endroit où elle a décidé, où son artillerie est retranchée, où ses hommes sont retranchés. C'est un véritable traquenard. Et il y a des Mosellans qui sont annexés depuis 1971, mais qui sont restés français de cœur, qui vont voir les soldats en leur disant « N'avancez pas, c'est un piège, ils sont nombreux, ils sont là derrière. » Et c'est la catastrophe. 10 000 soldats sont restés sur le carreau. On a oublié ces terribles batailles au nom de la gloire des grands chefs.
Jean-Yves Le Naour, que vous retrouverez tous les matins de cette semaine sur Inter au micro de Thibault Lefèvre, et allez donc faire un tour sur franceinter.fr. Vous y trouverez une carte des lieux de mémoire de la Grande Guerre. Voilà pour la partie historique de cette tournée d'Emmanuel Macron. Cyril Gradiani est toujours avec nous. Cyril, chaque jour, le président va aussi rencontrer des Français. Cet après-midi, dans un salon d'investisseurs, il y aura aussi des visites d'usines ou d'EHPAD. C'est presque une campagne électorale au moment où le chef de l'État est au plus bas dans les sondages.
Oui, Emmanuel Macron veut se frotter à ces terres qui ont payé un lourd tribut. Les deux guerres mondiales, la mine, les crises de la mondialisation des territoires qui ont massivement voté Marine Le Pen et qui s'apprêtent à recommencer en mai prochain aux européennes. Il veut parler, mais il va surtout devoir entendre la grogne, notamment sur le prix des carburants. Dans les colonnes de la PQR, Emmanuel Macron assume parfaitement, dit-il, la hausse de la taxation sur le diesel. « Je préfère la taxation du carburant à la taxation du travail », lance-t-il. Le président prétend comprendre l'impatience des Français et écouter leur colère. À bon entendeur.
Cyril Gradiani sur les traces du périple d'Emmanuel Macron dans l'Est avec Christophe Papon.
Il est 8h06, ils veulent rester des Français du bout du monde.
À Nouméa, au lendemain du référendum d'indépendance remporté par le camp du non avec un peu plus de 56% des voix, Édouard Philippe a salué aujourd'hui la participation considérable des Calédoniens. 80% sont allés voter. Les indépendantistes, s'ils n'ont pas gagné, ont fait un score élevé. La suite, ce sont deux potentiels référendums supplémentaires et une population qui reste divisée. Reportage à Nouméa, signé Farida Noir.
Résultat définitif n'était pas encore connu.
Sur la place des Cocotiers, assis sur un banc, son petit poste collé à l'oreille, Alex écoute la radio locale, soulagé que le non l'ait emporté hier.
La France nous donne tout, il manquait rien pour nous les Mélanésiens. Si c'était le oui qui avait gagné, mon cœur ne serait pas tranquille. Mais là, j'ai la paix là, parce que c'est le non qui a remporté. Ça veut dire que... on va toujours vivre comme on vivait avant.
56,4% pour le non, 43,6% pour le oui. Un score serré, les loyalistes avaient imaginé un plus grand écart qu'ils pourraient obtenir aux alentours de 70% des suffrages. Pour Jean-Louis, cela rabat clairement les cartes.
On sentait qu'il disait qu'il n'y aura pas un deuxième, troisième référendum. Je crois qu'il faut revoir la copie. Il faut aller à terme de l'accord qui a été signé. Et puis, il faut le dialogue dans ce pays pour réduire les disparités. Quoi.
Pour Ludovic, qui a voté non, le résultat de ce référendum va raviver des tensions.
Ça va semer la zizanie, à mon avis. Hein. Autant si on avait eu un 40-60 ou un 20-80, ça aurait été. Mais là, c'est une égalité. Donc... les loyalistes vont se dire qu'ils sont chez eux, il faut rester. Et puis les enfants du pays, les Mélanésiens et les Kanaks vont se dire qu'ils ont pratiquement gagné. Donc eux aussi, ils veulent s'approprier pas mal de choses.
Les deux autres référendums sont prévus en 2020 et 2022.
Et ce matin, des incidents ont eu lieu dans la banlieue de Nouméa. Des jeunes ont enflammé des pneus sur la route. Les gendarmes sont sur place. À l'étranger, une première vague d'un millier de migrants est arrivée à Mexico cette nuit. Ils ont été placés dans un stade de la ville. Ils se trouvent à 800 km désormais de la frontière la plus proche avec les États-Unis, où Donald Trump se démultiplie à la veille des élections de mi-mandat. Face à lui, Barack Obama a repris du service pour défendre les candidats démocrates. C'est l'une des élections les plus importantes de notre vie, répète l'ancien président. Il était en meeting hier soir dans sa ville de Chicago. Avec lui, Sébastien Sabiron de France Inter.
Il y a 10 ans, tout juste, Barack Obama prononçait à Chicago son premier discours de président élu. De retour en super VRP du Parti démocrate, les mots ont un peu changé.
C'est bon d'être à la maison. La bonté et la décence sont toujours là. La gentillesse est toujours là. L'espoir est toujours là. Quand vous votez, vous pouvez choisir l'espoir plutôt que la peur.
La peur, agitée selon lui par un Donald Trump dont il ne prononce jamais le nom mais dont il raille la campagne, centrée en partie sur l'immigration clandestine.
D'un coup, la plus grande menace qui pèse sur l'Amérique ne serait pas les armes qui tuent nos enfants dans les rues, non, ce seraient des immigrants pieds nus, des réfugiés à un millier de miles d'ici. Vraiment, malheureusement, s'ils disent ceci, c'est que parfois ça fonctionne.
L'ex-locataire de la Maison-Blanche balaie les thèmes chers aux démocrates, la santé, l'éducation, le respect des minorités. Carton plein dans l'auditoire.
C'est bon de voir quelqu'un qui défend tout le monde. L'accueil, la compassion, l'attention aux autres. Notre pays s'est construit sur ces valeurs et nous allons les restaurer.
Des convaincus qui, pour la plupart, ont déjà voté par anticipation et qui rêvent d'une vague bleue démocrate demain pour contrer Donald Trump. Chicago, Arthur Gerbeau, Sébastien Sabiron, France Inter.
La leçon de libre-échange de Xi Jinping à Donald Trump. Le président chinois annonce ce matin qu'il va ouvrir davantage son marché intérieur et augmenter ses importations. Discours tenu devant un parterre de dirigeants mondiaux réunis au tout premier salon des importations de Shanghai. En conflit commercial avec les États-Unis, il dénonce le protectionnisme et l'isolationnisme.
Il est 8h10, nouvelle saison pour le feuilleton Air France.
Et oui, vous pensiez que c'était terminé? Eh bien non, les pilotes relancent le feuilleton. Ils entament un round de négociations avec la direction de la compagnie, mais seulement pour eux, seulement pour leur compte. Que veulent exactement ces pilotes, Philippe Lefebvre?
Eh bien, le syndicat national des pilotes de ligne majoritaire à Air France veut obtenir beaucoup plus que les 4% d'augmentation proposée par la direction et pourtant acceptée le mois dernier par 5 organisations syndicales, y compris de pilotes, représentant 76% des salariés de la compagnie. Aujourd'hui, le SNPL veut obtenir une augmentation des salaires des pilotes de 10,7%, incluant le rattrapage du coût de la vie et une hausse catégorielle liée aux bonnes performances d'Air France. Une revendication qui pourrait représenter, si elle était acceptée en l'état, une augmentation moyenne des pilotes comprises dans une fourchette allant de 1500 à 2000 euros par mois. Mais ces revendications ne sont pas partagées, loin s'en faut, par l'ensemble des pilotes d'Air France, qui depuis quelques jours critiquent sur les réseaux sociaux et parfois très violemment l'attitude de Philippe Évin, le président du SNPL, souvent accusé de vouloir précipiter Air France contre un mur et de faire perdre à la compagnie à travers des journées de grève des centaines de millions d'euros. Des critiques qui ne sont pas neutres, un mois des élections professionnelles chez les pilotes.
La rentrée après les premières vacances scolaires de l'année entre le lycée et les études supérieures, c'est aussi la rentrée des recalés de Parcoursup, ceux qui sont inscrits dans les fameuses classes passerelles. Il y en a dans chaque académie, c'est nouveau, comme à Sablé-sur-Sarthe, où s'est rendu Morgane Auclin-Refait.
Refusé ou sur liste d'attente, c'est ce qu'a eu Brandon à tous ses vœux sur Parcoursup. Malgré sa mention assez bien au bac, ses bulletins n'étaient pas au niveau pour les BTS visés.
C'est assez frustrant, ça perturbe un peu, tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire plus tard, j'ai pas forcément envie de travailler ou d'arrêter l'école.
C'est quoi l'objectif cette année?
Travailler sur mes lacunes et surtout améliorer mes langues vu que c'est très important en commerce international.
Moi c'est les maths, j'avais pas forcément des bonnes appréciations.
Pour Caroline, cette classe passerelle sur un an, c'est une chance de rebondir, ils ne sont que 6 élèves du coup.
C'est plus simple parce qu'on nous explique si on n'a pas compris, ils nous répètent les choses et c'est plus intéressant. On a 3 jours de cours dans la semaine, du coup je revois mes cours de l'année dernière.
Du français, de l'anglais et des maths, mais aussi
des cours de communication, autour du monde de l'entreprise aussi.
Aurélie Fouché gère le dispositif.
On va les mettre en immersion dans les BTS et à partir de là, voir quelles sont les matières à travailler. Parfois il y a beaucoup de décrochage entre la première et la deuxième année de BTS, donc là on va aussi faire en sorte que eux ne décrochent pas entre les 2 années, donc c'est pas une année de perdu.
À la clé, si tout se passe bien, une certification et un avis favorable du lycée pour leur poursuite dans l'enseignement supérieur. De quoi donner un coup de pouce pour la prochaine session Parcoursup.
Un reportage de France Bleu Sarthe. Quand vous allez chez le médecin, qu'est-ce qu'il vous dit qu'il enrichit ses connaissances, qu'il les a enrichies depuis le début de ses études de médecine? Bah rien, et c'est un problème. Selon la ministre de la Santé, elle avait commandé un rapport remis aujourd'hui. Il pourrait aboutir à une loi, Véronique Julia, pour s'assurer que les compétences des médecins sont à jour et garantir des soins de qualité aux patients.
C'était une demande récurrente des associations de patients. L'Ordre des médecins a toujours milité en sa faveur et les syndicats de la profession y sont plutôt ouverts. Cette démarche de recertification paraît donc finalement assez consensuelle. Le constat, c'est que les médecins ne sont pas égaux dans l'actualisation de leurs connaissances. Or, la science évolue de plus en plus vite. Il faut donc plus que jamais se maintenir à flot. La formation continue existe déjà pour les médecins. Ils ont l'obligation déontologique de se former tous les 3 ans. Problème, ceux qui manquent à cette obligation ne sont pas sanctionnés. Chacun fait finalement ce qu'il lui plaît. Au Royaume-Uni, au Québec ou aux Pays-Bas, cette recertification existe déjà. Le rapport d'ailleurs s'en est inspiré. En France, l'idée serait de vérifier l'état des connaissances et des acquis de chaque médecin tous les 6 ans, selon des critères qui restent à définir. Si on détecte un manque ou une difficulté, un accompagnement sera d'abord proposé, une sanction ensuite s'il y a de la mauvaise volonté. Cette démarche sera proposée sur la base du volontariat aux médecins actuellement en exercice. Elle deviendrait obligatoire en revanche pour les futurs diplômés. Plutôt que de recertification, le rapport préfère parler, je cite, de valorisation périodique du parcours professionnel.
Véronique Julia et direction maintenant Saint-Malo où le départ de la route du Rhum a été donné hier. Bonjour Jérôme Val.
Eh bien oui, ce début de course, Florence, est décidément impitoyable pour les favoris. Après Armel Lecléache qui a été contraint de s'arrêter hier soir pour un problème technique, une halte d'une petite heure dans le port de Roscoff avant de repartir, eh bien c'est au tour du leader de la flotte de connaître une avarie. Mais cette fois, c'est du sérieux. Sébastien Josse sur son trimaran géant Edmond de Rothschild, trimaran capable de voler. Eh bien, il s'est arrêté brutalement vers 5h30 ce matin. Il a perdu l'étrave de son flotteur gauche, c'est-à-dire que le bout de son flotteur a été arraché. Le skipper est sain et sauf et cherche maintenant à rallier l'Espagne dans des conditions difficiles avec des creux de 4 à 5 mètres. Et puis la météo va sérieusement se dégrader dans les prochaines heures. Il faut donc qu'il se mette à l'abri le plus rapidement possible. Sébastien Josse réalisait jusqu'à présent un début de course quasi parfait avec des vitesses moyennes de 38 nœuds, 70 km/h. Alors que s'est-il passé? C'est un peu trop tôt pour connaître les circonstances, mais on peut imaginer qu'il a percuté un ovni, un objet flottant non identifié, comme il en existe beaucoup dans ce golfe de Gascogne.
Jérôme Val à Saint-Malo pour ce premier coup de théâtre de la route du Rhum. Pour terminer, un tout petit mot de football pour vous dire que Montpellier a corrigé littéralement Marseille hier soir 3-0. Montpellier qui a pris la deuxième place de la Ligue 1 aux dépens de Lille.
Merci Florence Paracuelos.